Femme dans la guerre, une réalisation de Vinciane Meuchler.
Donc je suis rentrée maintenant d'Afghanistan où j'ai passé 9 mois, quasiment 9 mois.
Hilde Cortier, sage-femme pour Médecins sans frontières.
Dont 8 mois dans le projet et 1 mois à Kaboul avec un petit retour sur le projet. Ça fait 13 ans que je m'engage pour MSF, mais bon, j'ai travaillé aussi au département médical ici à Bruxelles, donc on a quand même une vie un peu plus normale, même si on fait des visites terrain. Oui, c'est fatigant, physiquement, premièrement. On travaille très dur, on travaille surtout là, avant l'ouverture de la maternité et pendant la maternité, c'était non-stop, 7 jours sur 7, des longues journées. Donc c'est dur physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ça dépend un peu des types de missions, mais on apprend beaucoup, on a beaucoup de satisfaction, c'est un métier que j'adore, j'aime soigner les gens, j'aime... Mais c'est clair que c'est lourd et je pense qu'il faut bien se connaître, hein, ou il faut être attentif aux signes. Et là, je sens que je suis émotionnellement surtout, parce que physiquement, on récupère vite. Hein. On mange bien ici, j'avais perdu 10 kilos, mais je les ai très très vite repris. Et donc, on mange bien, on se repose. Et donc, je prends soin de moi, un petit massage, un petit shiatsu, donc... Mais émotionnellement, j'ai encore dur, même. Je sens que pour moi, peut-être, il est temps de faire un petit break. Mais je pense que l'humanitaire, on l'a en soi, on l'a dans le cœur, ou on l'a pas, ou dans la peau. Et donc, j'ai envie de continuer de travailler dans l'humanitaire, mais peut-être pas tout de suite dans l'humanitaire d'urgence, ou dans un contexte difficile. Ça fait 13 ans que j'apporte un stress à mes parents, à toute ma famille aussi, ma sœur, mon frère, même s'ils sont fiers, s'ils voient aussi que je suis heureuse dans mes choix, dans cette vie que je mène, je pense de plus en plus au stress que ça doit leur apporter, le fait que je parte surtout dans des pays en guerre. Et peut-être qu'il est temps aussi que je les laisse un peu, que je fasse d'autres projets, des projets peut-être moins dangereuse et peut-être passer à autre chose. Sur le terrain, on est occupé, on est là en projet, on travaille beaucoup. Et très souvent, je l'ai eu aussi avec d'autres missions qui ont été particulièrement difficiles dû à une ou l'autre raison, un taux de mortalité élevé, beaucoup de stress. On se rend souvent compte de nos blessures quand on est de retour, quand on prend le temps, quand on n'est plus dans l'action. J'ai besoin de prendre du temps, de pas trop réfléchir, mais évidemment, il y a des flashbacks, il y a des moments qui reviennent, qui sont tristes, et on s'en rend compte qu'on a quand même vécu des choses très dures. Après, il faut trouver un moyen de gérer ces émotions et de trouver des solutions pour accepter, je pense. C'est beaucoup d'acceptation qu'on doit faire. C'est un travail d'acceptation. Et un deuil à faire et des blessures qui doivent guérir. C'est dur, parfois, par exemple pour mon copain, où il y a des journées où je suis très triste et où ça passe pas. Mais moi, je l'accepte, j'essaye je travaille là-dessus, je suis en psychothérapie et j'espère que je ferai mon deuil rapidement et que... Mais bon, je me laisse le temps aussi. Voir mourir une femme qui accouche, c'est pas normal, c'est pas une situation normale, donc on doit pas non plus... Il faut pas normaliser cela, il faut pas... Il faut prendre du temps entre les missions, de digérer, de... Je connais des gens qui passent d'une mission à une autre, et peut-être qu'ils sont forts, mais moi, je ne pourrais pas. Je pense qu'à un moment donné, alors si on s'arrête, je pense que ça te tombe dessus.
Nous avons mis sur pied une cellule de soutien psychologique.
Bartholz Birenzehan, psychiatre.
On appelait ça la cellule stress pour encadrer, soutenir et préparer aussi les délégués du CICR à leur mission et les organiser un espèce de, enfin, les débriefings au retour, qui consistent donc à écouter le vécu de leur mission pour essayer de les soulager, voire de les adresser si nécessaire à des psychothérapeutes. Le PTSD, c'est un sigle qui signifie Post-Traumatic Stress Disorder, qui est donc, en français on dit, l'état de stress post-traumatique, qui est donc cette maladie, en quelque sorte, du souvenir, ce retour de la blessure psychologique, qui est une affaire connue depuis très longtemps, que les militaires avaient déjà vécu dans les différentes guerres qui ont secoué la planète. Les romanciers, les premiers, avaient décrit cela très bien. Au fond, si on prend le roman de Balzac, le colonel Chabert, c'est l'histoire d'un homme qui revient de la bataille d'Eylau et qui n'endort plus après parce qu'il se souvient de ce qu'il a vécu là-bas. Eh bien, les humanitaires, les journalistes, tous les gens qui partent sur le terrain pour être confrontés à la violence reviennent parfois, pas tous, mais parfois, avec cette maladie du souvenir. C'est-à-dire que ils reviennent apparemment normaux, n'ayant pas de souffrance, et puis subitement, à l'occasion d'un événement qui peut rappeler, ou peut-être même peut rappeler, mais qui peut, ce qu'on appelle le mécanisme, le trigger mécanisme, le mécanisme d'incitation, ils partent alors à ce moment-là dans le passé, et ils sont envahis par le souvenir d'une scène ou d'un événement qui les a profondément blessés. Et cet événement est presque toujours le rapprocher de la mort. Ça peut être, si vous voulez, une blessure physique, une blessure psychique, l'idée qu'on va perdre l'équilibre mental, mais c'est quand même presque toujours le rapprocher de la mort qui provoque cette maladie, qui est à ce moment-là suffisamment importante pour que les gens ne puissent plus fonctionner sur le terrain. La première chose, c'est de l'identifier. Alors qu'avant, on ne l'identifiait pas, on pensait à une dépression, etc. Non, c'est un état de stress post-traumatique. Et ensuite, c'est d'aider les gens à remettre à plat ce qu'ils ont vécu, idéalement en mettant en mots à ce qu'ils arrivent à partager par la parole ce qu'ils ont vécu. Mais c'est ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que la proximité de la mort fait qu'on n'a pas l'habitude de le mettre en mots. Donc on n'a pas les mots, si vous voulez, cette représentation du rapproché de la mort n'est pas habituelle dans notre société. L'enfant ne la verbalise pas, et l'adolescent non plus, si bien que le jeune humanitaire qui est confronté à ça doit tenter de trouver les mots pour le dire. C'est la grande difficulté. On parle d'indicible. On dit... Il y a cette phrase de Lacan qui dit, qui est très juste, enfin, je ne sais pas si c'est Lacan, mais il dit « je me remémore ». On se souvient, on se remet dans l'état de mort, et ce réel-là est très compliqué, très difficile, très douloureux à mettre en parole. Alors, si on ne peut pas le mettre en parole, on ne peut pas le partager, et si on ne peut pas le partager, on reste avec ce kyste, ce poids à l'intérieur de son psychisme qui n'arrive pas à s'évacuer. J'ai beaucoup aimé Camus, surtout donc La Peste, parce que dans ce roman, bien avant qu'on parle de soutenir les humanitaires, Camus montre que tous ces gens qui se préoccupent de la peste à Oran sont bouleversés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils vivent et tentent d'échapper à cette horreur. Et Camus rappelle que le médecin, le docteur Rieux, dit au journaliste qui se demande s'il va rejoindre sa compagne à Paris ou s'il va l'aider à évacuer tous ses blessés, il lui dit « N'oubliez pas, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, donc vous pouvez vous échapper ». Et c'est une phrase qui est pas importante parce que lorsque je n'avais plus de moyens d'aider les humanitaires, je leur rappelais qu'ils pouvaient quand même tirer la prise, temporairement ou définitivement, mais qu'ils pouvaient quand même s'échapper et retourner dans un univers, dans un monde, un environnement plus paisible.
Ma vie de reporter.
Martine Laroche-Joubert, grand reporter à France 2.
C'est comme une autre vie. J'entre dans un autre monde avec d'autres codes, d'autres manières de vivre, des gens qui ne me sont pas familiers. Donc, je passe, je dirais presque de l'autre côté du miroir. Je reste de l'autre côté du miroir. Je vois ce qui se passe et puis je reviens dans ma vie. Mais dans ma vie, tous les jours ici à Paris, je pense assez peu au terrain de guerre. Je garde quelquefois des liens avec les gens que j'ai rencontrés. Mais si vous voulez, c'est deux vies complètement différentes. Vous êtes là avec des amis, vous revenez chargé de choses très fortes, et les gens ont des conversations quelquefois d'enfants gâtés finalement. Mais bon, c'est normal aussi, hein, je ne juge pas, même enfants gâtés c'est peut-être un terme trop fort, mais ce sont vraiment deux vies très différentes. Il peut y avoir un effet, il y a un décalage. Mmh. Puis on passe aussi par des sas, hein, quand on revient comme ça, il y a une sorte de sas pendant laquelle il est même difficile de discuter avec les gens parce qu'on a... Mais bon, j'ai appris au fur et à mesure à séparer vraiment ces deux vies. Je passe le miroir dans un sens et puis dans l'autre.
Dans mes cauchemars, il y a beaucoup de bombardements.
Dorothée Olieric, grand reporter à France 2.
Et ce qui est étrange, c'est que je mélange toujours ma famille. Je l'ai fait à Paris. Je ne l'ai fait jamais sur le terrain, je l'ai fait en revenant. Je mélange ma fille, mon fils, qui ont aujourd'hui 8 et 10 ans, ont bombardement, et je me vois tout le temps en train de les protéger. Les protéger des balles, les protéger des obus. Mais ça veut dire, une fois, je poussais un caddie, je sortais de faire les courses avec un caddie plein, ma fille dessus, puis ça tirait de partout. Je me suis dit, ah, je sais, et je poussais le caddie avec les courses et ma fille à travers les obus, les trucs comme ça. Complètement absurde. Mais c'est toujours un mélange, je pense, par rapport à la famille, à mon conjoint, à mes enfants, de se dire, le danger, moi, que je reçois, que je vis, qui m'entoure, m'importe peu, mais il me fait me sentir mal. Donc faire des cauchemars à partir du moment où ça risque de toucher ma famille, qui, Dieu merci, est a priori à l'abri de ce genre d'incident en vivant en France. Entre mon premier enfant et mon deuxième enfant, j'ai accepté un poste d'adjointe du service de politique étrangère. Et au bout de 3 ans, je m'ennuyais tellement, c'était mais tellement triste. Le métro, boulot, dodo, mais j'en pleurais, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible, mieux vaut partir. Pas tout le temps, mais avoir cette dose de choses extraordinaires dans une vie ordinaire que j'adore, au demeurant. Mais j'ai besoin, non pas d'adrénaline, j'ai besoin de vivre, de ressentir des choses qui sont vraiment très différentes de ce qu'on vit au quotidien dans nos vies. C'est ma façon à moi de m'évader, de donner, de recevoir encore plus, de m'enrichir, de me dire que la vie, elle est sacrément belle, hein, de pas revenir le soir en engueulant mon homme et mes gosses, mais de partir pour mieux revenir, pour revenir meilleur, plus riche, plus de sentiments, du prix de la vie, de rencontres incroyables. Parce que quand on va dans les pays en guerre, c'est vraiment pas pour chercher, ou alors pas à mon âge, c'est pas pour chercher de jouer avec le feu ou la dose d'adrénaline ou des choses comme ça. C'est plutôt pour vraiment vivre l'histoire. J'ai ce besoin viscéral. Quand j'entends qu'en Libye, Kadhafi est en train de tomber, mais je dis, mais il faut que j'y sois, c'est physique, c'est pas imaginable que je reste là à regarder ça à la télé. Donc, en général, j'y vais, quand c'est un gros événement comme ça, en tout cas depuis 20 ans, c'est comme ça. Et là, je me sens mieux. Voilà, la mort de Ben Laden, je me sens bien quand je suis dans l'avion qui vole pour aller vers Abbottabad. Abbottabad, dont on n'a jamais entendu parler, mais une fois que je suis à Abbottabad, je sais qu'il vient d'être tué, et j'enquête, et je fais mes sujets, mes reportages, je rencontre des gens, je vis dans des conditions compliquées, tourner dans un endroit qu'on ne connaît pas, trouver des témoignages valables, faire une enquête, faire un direct pour la télé. Il se passe des sacrées choses pendant les 4-5 jours où on y est. Et je reviens, et après, je reprends une vie plus tranquille, plus paisible, à la rédaction, avec mes enfants que j'emmène à l'école, des jours de récup. Et Alors c'est vrai qu'il y a, peut-être un sas un petit peu, mais qui est invisible, qu'on n'impose pas aux autres. Dans sa tête, on a encore la tête et le cœur et l'esprit un petit peu ailleurs. Alors après, quand on a des enfants, j'ai l'impression que ce temps se réduit parce qu'on a besoin de leur donner notre disponibilité, notre amour tel quel. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui nous maintient dans ce lien avec la vie ordinaire. C'est maintenant avec les portables, ça passe partout. Et moi, que ce soit dans un pays en guerre avec les chars autour, les bombardements, les roquettes, je suis avec mes SMS ou par téléphone avec mes enfants en train de dire « Mais vas-y, récite-moi ta poésie. Attends, j'ai pas bien entendu. Oui, vas-y. » Donc c'est Arthur Rimbaud. Hein, voilà, d'accord. Ah non, Baudelaire, d'accord, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. Voilà, et genre les obus autour. Et je dis, non, vas-y, mais j'ai juste raté, vas-y, non, c'est bien. Ok, et alors, est-ce un contrôle demain? Tu as révisé ta leçon de géographie? Ah, d'accord, c'est sûr, quoi. Tu te trompes pas, hein, tu te souviens de la capitale hein, de la Libye, c'est quoi? Tripoli. Bon, ben, je veux pas que tu aies de faute là-dessus. Hein. Et ça, pendant que mon métier sur le terrain continue, donc ce lien, je l'ai, hop, entouré de situations un peu rocambolesques, extraordinaires et autres. Et je reviens, donc le fil n'a jamais été lâché. Je reprends ce fil-là. Et moi, j'adore. J'ai un petit côté super pépère, casanière. Quand je suis là, j'adore. Alors, quand je suis en vacances, pour tout vous dire, je n'ai pas envie de prendre l'avion et d'aller au bout du monde. Hein. On va chez mes parents à Nantes, on va au bord de la mer, on va... vacances très franco-françaises, familiales. Et je ne vais pas chercher l'aventure, le trekking sur le toit de l'Himalaya. Pas encore, en tout cas, avec les enfants qui sont très bien comme ça.
Bon, j'aime la vie et j'aime mon boulot et je suis heureuse, mais on devient très critique par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe. Et on vit avec. À chaque fois, c'est dur d'accepter que les bébés meurent en naissant, les femmes meurent en accouchant, etc. Moi, ça ne devrait pas arriver, ça arrive partout, ça arrive encore et ça arrivera encore. Et ça, on le sait. Parfois, c'est ça qui est dur à accepter, qu'on va continuer ce travail humanitaire parce qu'il sera nécessaire. Moi, je préférerais ne plus devoir le faire. Même si j'aime ce que je fais, si c'était plus nécessaire, ce serait bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin.
Lorsqu'elle est sortie de l'aéroport, avec sa toute petite valise et son visage un peu chiffonné, j'ai pensé qu'elle était vraiment belle, que le voyage lui allait bien, et que même si elle rentrait des enfers, son regard donnait l'impression qu'il ne s'était rien passé. La routine chez elle avait des allures de goéland. Elle était partie vers le large, vers des ailleurs mal en point, vers des lignes de fuite dont elle ne me parlerait pas. Et pourtant, rien ne transparaissait des difficultés qu'elle avait traversées. Elle me fait un sourire, je la prends dans mes bras. Nous ne prononçons aucune parole, rentrons à la maison, chez nous, là où elle peut se déposer. Elle caresse le chien, lui demande « Comment tu vas, toi, le chien ?»« Vous m'avez manqué », dit-elle aussi en me regardant. Le soir, elle ne mange presque rien et part s'enfermer dans le bureau pour terminer son article. Minuit, 1 heure, je l'attends. Je ne fais que ça du reste, attendre et avoir peur de la perdre. Ma vie est une longue salle d'attente où j'échafaude tous les scénarios possibles. J'imagine qu'un jour elle ne reviendra pas. Je passerai alors ma vie à la chercher inlassablement à travers toutes les guerres du monde. Au cours de la nuit, elle vient se glisser dans le lit contre moi. Elle murmure, tu sais, c'est fini, je n'y retournerai plus. Je fais semblant de la croire, l'enlace avec force, sachant très bien que dans un mois, elle partira vers un nouveau conflit. Parle-moi de là-bas, raconte, c'était comment? Merde quoi, c'était comment? Ces gens que tu vois mourir, ces bombes qui les massacrent. Tu as réussi à obtenir des témoignages? Et la situation politique s'empire, tu trouves? Plus fort, je t'entends pas. Gueule, mon amour, gueule. Tu murmures l'indicible. Retiens tes émotions, ces larmes que tu caches. Ne reste pas seul, je suis là. Dis-moi quelque chose. Mets des mots sur tes mots. Je ne connais rien de tes détours, de tes chemins de traverse. J'ignore le pire, je devine ta perte. J'imagine ta solitude. J'esquisse ton visage au milieu du fracas. Tes traits sont fatigués dans les éclaboussures de la guerre. Tu cours à perdre haleine. Tu es épuisé, n'est-ce pas? De sa valise ouverte en vrac dans notre chambre, j'aperçois un livre. C'est celui que je lui ai offert avant son départ. « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Je me souviens avec nostalgie de cette phrase longue, magnifique et empreinte de légèreté. Solennelle parmi les couples sans amour, ils dansaient, deux seuls préoccupés, goûtaient l'un à l'autre, soigneux, profonds, perdus. Béate d'être tenue et guidée, elle ignorait le monde, écoutait le bonheur dans ses veines, parfois s'admirant dans les hautes glaces des murs, élégante, émouvante, exceptionnelle, femme aimée, parfois reculant la tête pour mieux le voir, qui lui murmurait des merveilles point toujours comprises, car elle le regardait trop, mais toujours de toute son âme approuvée, qui lui murmurait qu'il était amoureux, et elle avait alors un impalpable rire tremblé. Voilà, oui, c'était cela, amoureux. Et il lui murmurait qu'il se mourait de baiser et bénir les longs cils recourbés, mais non pas ici, plus tard, lorsqu'il serait seul. Et alors elle murmurait qu'ils avaient toute la vie. Elle a lu ce livre dans ce pays écorché dont on ne cesse de nous parler, le Liban. Je voulais qu'elle l'emporte pour penser à notre amour. Pendant qu'elle était en reportage, moi je poursuivais ma route. Métro, boulot, métro. Paris est trop grand sans elle. J'ai beau me blottir dans chaque angle de la ville, je me retrouve dans un cul-de-sac, celui de l'immensité de la vie sans elle. On ne va pas divorcer à cause de ça, dit, m'a-t-elle demandé un jour. Elle a ri, puis s'est enfuie. Pourquoi ? Pourquoi quitter notre amour et partir vers la guerre ? Je l'étouffe, je la néglige, je l'ennuie. Je cherche à comprendre l'insaisissable, l'éphémère, à la retenir, lui faire des cadeaux, un enfant, lui offrir des souvenirs, des nuits d'amour, des fous rires, des tangos langoureux. Certains jours, je hurle, reste parce que j'ai peur de te perdre, peur du vide, du doute qui m'envahit lorsque tu es contre, à côté, dans la guerre. L'autre jour, je lui dis, pars, ma douce, va. Parce que j'aime ta liberté, ta volonté d'être présente là où l'histoire de notre siècle se déroule. Demain encore, le mois prochain, l'année suivante sans doute à Paris, j'attendrai la femme de ma vie. Au cœur de la guerre, Vinciane Mochler.
Beaucoup de personnes et beaucoup de femmes repoussent le plus longtemps possible ce moment de rentrer et de se préoccuper d'elles-mêmes. Donc elles sont comme devenues dépendantes de la souffrance d'autrui, qu'elles veulent à tout prix apaiser, atténuer. Et ce sont des jeunes femmes qu'il faut presque prévenir de repartir. Elles ont tendance à venir à rentrer, se reposer et tout de suite repartir, comme si se pencher sur la souffrance d'autrui était devenu vital pour elle. Je crois que là, on est presque dans une situation de burn-out qui s'annonce. C'est-à-dire que si on ne bloque pas ces personnes, si on ne les empêche pas de repartir, un jour il y aura l'effondrement. L'effondrement, c'est quand tout à coup, elles prennent conscience que la vie est bornée, que le temps de vie qui reste est diminué et que subitement elles n'ont pas mis en place, en quelque sorte, elles se sont tellement données à autrui qu'elles n'ont pas mis en place les éléments de protection et de sécurité nécessaires. Oui, c'est ça, l'accro, devenir accro, devenir dépendant de la souffrance d'autrui. Mais en réalité, ne nous leurrons pas, il n'y a pas que les humanitaires qui sont soumis à ça. Beaucoup de médecins, beaucoup de soignants dans nos pays, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont toujours en train de courir après des gens à prendre en charge pour éviter de se prendre en charge. Il est difficile de garder ce feu sacré et d'avoir réellement l'impression qu'on va changer quelque chose. Parce que, particulièrement au CICR, on a l'impression qu'on peut fermer une délégation d'un pays parce que la paix est là, et puis quelques mois après, ça repart. Et non seulement ça repart, mais tout ce qui a été construit est de nouveau détruit, et il faut recommencer tout à zéro. Et il y a vraiment des pays qui sont porteurs d'une certaine malédiction à ce niveau-là. Le désespoir est là, etc. Et donc l'humanitaire doit... Il tient le coup parce qu'il part que souvent que pour une brève période, il part que pour une année ou deux ans, et ensuite il se ressource en retrouvant les siens. Et ensuite, voilà. Mais l'idée que rien ne dure, rien de ce qu'il a fait n'est durable, et parfois très pénible.
Celle qui recueille mes inquiétudes, mes angoisses, ou si j'ai besoin de raconter après, c'est ma maman. Même passé 40 ans, la maman a un rôle absolument incontournable, la mienne étant exceptionnelle. Alors je pense qu'elle est morte d'inquiétude, et elle me l'a dit pour la première fois il n'y a pas longtemps, quand Gilles Jacquet est décédé, donc mon confrère de France 2, elle m'a dit, mais tu sais, ça fait 20 ans que je vis ça, quand je vois l'image du cercueil, la famille en bas de l'avion... avec les ministres et autres qui sont là pour recevoir, accueillir le corps. Elle dit, ça fait 20 ans que je vis ça. Et que je me dis, ça pourrait être moi à la place de cette famille, ça pourrait être toi dans le cercueil. Jamais m'avait dit quelque chose comme ça, ça m'a bouleversée, parce que je me suis dit, c'est très égoïste de faire ce métier, parce que ça donne une frousse terrible aux proches. Donc ils ne le disent pas forcément, et je pense que mon conjoint ne le dit pas, et ma maman ne me l'a jamais dit, jusqu'à très récemment. Et c'est vrai que c'est comme quand j'étais en boîte de nuit à 15 ans, et que je rentrais pas à l'heure. Quand je suis en Afghanistan 15 jours, je pense qu'elle dort pas mieux que quand j'allais en boîte de nuit à 15-16 ans. Mais bon, c'est mon choix, c'est mon métier. Et là, elle m'a dit, bon, peut-être que tu vas ralentir un petit peu après la mort de Gilles Jacquet. J'ai dit, mais maman, c'est mon métier. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire, pour plein de raisons étranges. Et elle me dit non, mais j'ai dit ça comme ça. Voilà. En revanche, ma fille m'a demandé, m'a dit, maman, jure-moi que tu n'iras jamais en Syrie. Donc là, j'ai promis. Donc je n'irai jamais en Syrie. C'était le minimum que je pouvais, après la mort de notre confrère en Syrie. Quoi. Ça sera sans moi, ma chère Al-Assad. Mais quand même, ça m'embête un peu. Ah. Ça commence à devenir un peu plus difficile maintenant, parce que petit, ils étaient habitués à voir une photo de maman avec le gilet pare-balles, le casque lourd, des militaires derrière, des chars, des choses comme ça. Ils sont habitués à ce genre d'images depuis qu'ils sont tout petits. On leur montrait pas les reportages à la télévision, mais juste des photos souvenirs où tout va bien, où on prend la pose avec les militaires derrière, etc. Donc c'est une image qui ne les surprend pas. Mais depuis pas longtemps... Les copains qui, eux, voient le journal télévisé, les miens qui commencent à regarder le journal télévisé, ont un retour d'enfants qui leur dit « Mais ta mère, elle est folle, elle va dans des pays en guerre, elle peut mourir. » Et ça, je pense que ça les avait jamais alertés. Donc, ils disent « Mais non. » Alors moi, je dis « Mais je fais super attention, je me protège. Ah, si c'est trop dangereux, je me cache, le militaire, il me protège. » Donc, c'était un petit peu ma position. Et hélas, on a perdu un confrère et ami, Gilles Jacquet. Il se trouve que ses enfants étaient dans la même école, pas la même classe, mais le fils de sa compagne est en CE2 avec mes enfants. Et donc là, dans l'école, on s'est dit, tiens, le journaliste de France 2, comme ta maman, il est mort en Syrie. Et ta mère, sous-entendu, ça peut lui arriver. Donc j'ai dû retrouver des paroles pour les enfants, pour leur dire que je faisais attention, mais c'est un peu plus dur, ils commencent à prendre conscience, donc on verra le prochain départ dans un pays un peu difficile, ce que ça va donner.
Écoutez, c'est compliqué. Le fait d'avoir des enfants, surtout quand ils sont petits, génère vraiment un sentiment de culpabilité très fort. Bon, beaucoup de femmes qui travaillent ont ce sentiment-là. Mais en plus, quand on va sur une zone de guerre, donc une zone dangereuse, le sentiment de culpabilité est encore plus fort et peut être très, très, très fort. Mais j'ai appris au fil du temps à ne pas me laisser broyer par la culpabilité. Oui, mes enfants m'ont beaucoup aidée, ils ne m'ont jamais culpabilisée, ils ne m'ont jamais vraiment retenue non plus. Je leur disais, voilà, je vais dans tel ou tel endroit, etc., quand ils étaient assez grands pour s'en rendre compte. Mais je crois qu'ils avaient compris, ils ont été très généreux avec moi, ils avaient compris que c'était essentiel pour moi de faire mon métier. Donc ils n'ont jamais exercé aucune pression sur moi, les pères de mes enfants non plus et ma famille non plus. Ceux qui quelquefois exerçaient des pressions sont les gens à l'extérieur qui vous disent quoi, tu as des enfants petits et tu vas en Afghanistan ou au Liban ou en Irak, etc. Quelquefois oui, il arrive que des gens me culpabilisaient, je n'avais pas besoin de ça. D'ailleurs, ma fille, quand on lui pose la question, elle est très catégorique. Enfin, elle dit que les gens qui reprochent aux femmes d'aller sur des terrains de guerre alors qu'ils ont des enfants n'ont pas le droit de le faire. Ça les regarde, c'est une affaire intime. Si mes enfants m'avaient retenue, si j'avais vu qu'ils n'étaient pas bien, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Par chance, ce n'était pas le cas. Mais c'est vrai aussi qu'il faut avoir que les enfants ne soient pas laissés seuls face à des images de télévision qui peuvent leur faire peur. Donc moi, j'avais la chance, j'avais ma tante qui était là, qui pouvait les rassurer quand j'étais en Yougoslavie. Ça avait l'air terrible. C'était terrible. Mais elle pouvait un peu rétablir, remettre en perspective, etc. Donc voilà. Mais enfin, c'est quand même pas évident. Hein. On a quand même, malgré tout, un sentiment de culpabilité. Et ça, partagé par toutes les femmes qui travaillent. Alors, il y a le risque. Mais d'autre part, moi, j'ai fait ce métier. C'est ça qui m'intéresse aussi. Donc, si je faisais autre chose, mes enfants avaient compris que je serais peut-être pas bien, pas, voilà, qu'il valait mieux, au fond, que je m'épanouisse. Mais on n'en a pas vraiment beaucoup parlé avec mes enfants. C'était vraiment un accord tacite.
Quand j'ai décidé, à l'âge de 23 ans, de faire ce métier, j'ai tout de suite accepté le fait que j'allais ne pas me marier, que je ne pourrais pas avoir d'enfants. Je trouve que c'est quand même de l'inconscience de mettre des enfants au monde et d'aller risquer sa vie dans les guerres et de laisser la maison à la maison. Et je savais surtout que très probablement ou probablement je pourrais mourir dans ce métier comme les toreros de mon enfance justement dans l'arène, à la seule différence que eux, c'est dans un lieu et à une heure précise, à la 5 de la tarde, tandis que nous les photographes correspondants de guerre, la mort nous guette à n'importe quel instant. Alors ça, je l'avais déjà accepté une fois pour toutes. Et ensuite, plus tard, lorsque Eric s'est suicidé à l'âge de 23 ans, mon frère, et donc qui est responsable de la découverte de cette vocation, de ce voyage initiatique au Tchad, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que depuis ce jour-là, vous vous souvenez, je me suis coupé les cheveux à la Jeanne d'Arc, je me suis habillée en noir, on m'appelle dans le monde arabe la Saouda, la femme en noir. Mon deuil est devenu tellement intense. Je me souviens que pendant des années, jusqu'à il y a très peu longtemps, je n'ai plus supporté le bleu du ciel, ni le bleu de la mer que j'aime tant, car chaque chose bleue me rappelait ce télégramme terrible. Ce jour-là, à cet instant précis, le monde s'est obscurci, comme dans un tableau de Goya, justement, comme dans ma photo que je ferai plus tard du terrible bombardement de Phnom Penh qui ressemble à un tableau de Jérôme Bosch avec des fumerolles noires. Et pendant 10 ans, je n'ai plus jamais revu, ni en rêve, ni en réalité, la couleur. C'est-à-dire qu'une personne habillée en jaune ou en rose, je la voyais en blanc et en noir, en noir et blanc, comme mes photos. Et ce n'est que 10 ans plus tard, avec la rencontre avec Philippe qui m'a redonné le goût de vivre, et c'est surtout lorsque j'ai accepté de faire le pèlerinage que je ne voulais jamais faire sur la tombe de mon frère Eric en Alsace, parce que être confronté à la tombe, c'est évidemment l'accepter. Tandis que toutes ces années, je n'acceptais pas sa mort. C'est comme si je l'emmenais en voyage avec moi ou j'allais le retrouver à la maison. Et à l'instant où j'ai été confrontée à cette tombe un peu abandonnée de mon père, de mon frère, de mes grands-parents, où il n'y avait pas de fleurs. De loin, quand j'ai vu cette tombe, alors que j'avais juré de ne pas y aller, j'ai pensé que là j'aurais peur, eh bien j'ai couru vers la tombe et j'ai dit en moi-même, comment, mais moi je vais vous faire une tombe magnifique, car je sais comment font les femmes d'Iran dans les cimetières des martyrs, qu'elles fleurissent de roses où elles vont prendre le thé chaque après-midi et manger des petits gâteaux. On ne les appelle pas des cimetières, on les appelle les parcs du peuple ou des souvenirs, ce qui est très beau. Car les Iraniens, justement, contrairement à nous, à nos civilisations, ont justement non pas seulement, comme on dit, le culte de la mort, mais le culte de souvenir, ce qui nous manque à nous. Je me suis souvenue devant la tombe de ma famille en Alsace des magnifiques hommages de la fête des morts à Mexico, où les gens mettent les portraits des défunts sur la table, sur une jolie nappe, avec des pétales de fleurs fleurs préférées, leurs paquets de cigarettes préférées, leurs petits verres de tequila. On fait, et aussi dans ces cimetières de Bolivie que j'ai photographiés, qui apparaissent dans le grand livre de photos de guerre édité par les éditions Marval, vous avez vu qu'on voit aussi les gens, ils sont pauvres, les mineurs de Bolivie, chanter et danser autour des tombes.
Peut-être que les femmes que je rencontrais sur le terrain étaient plus proches, en quelque sorte, de leurs émotions et recherchaient davantage que les garçons à me transmettre ce qu'elles avaient vécu. Donc il y avait un effort de leur part de partager l'émotionnel. Et ce qu'il y avait d'émouvant, c'est que parfois, devant l'impossibilité de trouver les mots, il ne restait plus que les larmes, mais aussi le geste. Je me souviens que parfois, lors d'un débriefing collectif, à la suite d'un assassinat collectif aussi en Tchétchénie, l'une des personnes à mes côtés m'a saisi la cuisse parce que c'était la seule manière qu'elle avait de me transmettre l'intensité émotionnelle qu'elle avait vécue sur le moment. Et voilà, donc ce sont des moments de partage, oui, moi je trouve unique parce que on est dépouillé de son masque, on ne prétend plus et on est là, un peu pantelant, à écouter l'autre qui a vécu quelque chose qui est proche de l'enfer. Il n'y a pas de mots. C'est-à-dire tous ceux qui sont rentrés de l'enfer, ceux qui sont rentrés des camps de concentration, ceux qui sont rentrés de la guerre de 14, tous ces gens n'ont pas pu transmettre leur souffrance parce qu'il n'y avait pas de mots. Et certains écrivains, certains dramaturges l'ont tenté, et ils y sont arrivés longtemps après le trauma, souvent. Peut-être, ils y sont arrivés, oui, parce qu'ils avaient un talent, mais après un gros travail de personnel et un travail de recherche aussi, de mise en mots de l'horreur. Oui, la difficulté, c'est de mettre en mots. Mais c'est pour ça que l'idée, si vous voulez, c'est d'aider les gens à cette mise en parole en leur suggérant des mots.
Vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la photo. C'est pour ça que j'ai toujours voulu à écrire ce qu'on ne peut pas photographier, c'est-à-dire les bruits, les cris angoissants et surtout les odeurs. Justement, cette odeur qui envahissait le cimetière. J'ai dit cimetière, je veux dire la ville de Phnom Penh anéantie ce jour-là. Cette odeur terrible de mort dont j'essayais toujours de me défaire en achetant des brassées immenses de lys embaumant que je mettais dans ma chambre à l'hôtel Continental à Saigon, à l'hôtel Royal de Phnom Penh, qui sont les fleurs mortuaires, les fleurs justement que l'on utilise dans les enterrements pour contrecarrer l'odeur de la mort. Mais ce que j'ai trouvé avec ces natures mortes, ces photomontages que je fais, c'est, Vinciane, le moyen d'abolir la frontière entre la vie et la mort. C'est-à-dire que grâce à ces photos, pour moi, ils sont toujours vivants et je les emporte avec moi en reportage. Et comme les toreros, je les déploie dans ma petite chambre d'hôtel et ils me sourient, j'allume des bougies. Et pour moi, ils sont encore vivants.
Femme dans la guerre, une réalisation de Vinciane Moechler. Avec Hilde Cortier, Bartol Behrens-Dehaene, Martine Laroche-Joubert, Dorothée Oliéric, Christine Spengler. Et la voix de Angelo Bison. Création sonore et technique audio, Christian Copin, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique et l'atelier Grafouille.